J'attends juste que le PowerPoint arrive. Que voici, que voilà. Merci. C'est bon? Okay. La prédication de ce matin, elle est... on va dire que c'est une prédication méditative. On va le dire comme ça. C'est une prédication, une méditation, je ne sais pas comment il faut l'appeler, vous verrez par vous-même. Et elle commence par une vidéo que je vais mettre tout de suite, qui parle de l'histoire d'un pêcheur mexicain. Est-ce qu'il y en a qui voient de quoi je veux parler là? Juste par curiosité, ouais. Il y en a quelques-uns qui sont sur les réseaux, qui l'ont vu passer. Je vais vous laisser la regarder.
C'est l'histoire d'un petit pêcheur qui pêchait que le matin, parce que pour lui le bonheur c'était d'être avec les siens, profiter de sa famille, les arder sur le sable, regarder grandir ses filles, les après-midi au calme. Un jour qui se reposait à côté de sa barque, une question lui fut posée par un homme d'affaires en cravate. À quoi te sert de dormir sur le port alors qu'au fond de la mer tant de poissons nagent encore? Pour construire un empire, taf sans compter tes heures. Avec l'argent que t'en tires, t'achèteras un moteur. T'iras pêcher au large, tu feras plus de marge. Bientôt t'auras 10 bateaux, des bâtiments en béton. Crustacés, cétacés, finiront tous entassés dans les filets carnassiers de tes chalutiers en acier. Découleras tes stocks en faisant des filets aux fiches. La moula que tu croques, faudra pas la filer au fisc. Elle a un port, export, dans les dollars tu nageras. Les fonds marins seront morts, mais t'auras une vie de roi. C'est quoi pour toi une vie de roi, dit le pêcheur? Une vie de roi, c'est pouvoir pendant des heures profiter de ta famille, les arder sur le sable, regarder grandir tes filles, les après-midi au calme.
Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui peinez sous la charge, moi je vous donnerai le repos. Franchement, est-ce que c'est vrai que lorsque vous étiez au bout de vos forces, et que vous vous êtes jeté aux pieds de Jésus, vous avez toujours trouvé du repos? Moi non. Il m'est arrivé de nombreuses fois d'être fatigué, d'être épuisé, et d'aller aux pieds de Jésus et de n'y trouver aucun repos. Alors, est-ce que Jésus ment, ou est-ce que c'est moi peut-être qui m'y prends comme un pied? Moi qui n'ai pas compris quelque chose d'essentiel dans cette promesse de Jésus. Quoi qu'il en soit, le repos arrive toujours pour les gens fatigués, parce que le repos n'est pas une option. Le repos est une chose absolument nécessaire dans nos vies. Il fait partie des 10 commandements. Il apparaît dans l'Exode, il réapparaît dans le Deutéronome. On a été créé avec une nécessité absolue de repos. Et donc, le repos, toujours, finit par arriver, soit parce qu'on l'a choisi en obéissance à la parole de Dieu qui nous y exhorte, soit parce que Dieu lui-même nous y contraint. On se casse un pied, on fait un burn-out, on tombe malade, peu importe la méthode, à un moment donné, la machine dit stop. Jésus n'a pas menti, Jésus donne le repos à ceux qui sont fatigués, et je dirais même qu'il le donne de gré ou de force. Et pourtant, on va ouvrir nos Bibles en Matthieu 11, versets 28 à 30, mais d'abord je vais prier. Seigneur, nous savons que ta parole est la vérité et que tu ne nous mens pas. Parfois, nous constatons un curieux décalage entre ce que ta parole dit et ce que nous vivons. Et probablement qu'il ne faut pas chercher à questionner ta parole, mais plutôt à questionner la manière dont nous la comprenons et dont nous l'abordons. Seigneur, nous savons que pour ça, nous avons besoin de ton Saint-Esprit. C'est pour ça qu'à chaque fois que nous ouvrons ta parole, Seigneur, nous en appelons à ton Esprit Saint, pour que nous puissions la comprendre par l'Esprit, et pas par notre intelligence qui est entachée par le péché, qui comprend les choses de travers. Nous avons besoin vraiment que tu nous illumines, et c'est ce que nous te demandons pour nous ce matin, Seigneur. Merci parce que Tu nous parles à tous en Église, tu nous parles aussi à chacun dans nos vies personnelles. Nous nous attendons à toi ce matin. Amen. Alors la prédication de ce matin repose sur ces trois versets qui nous disent ceci. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos, car mon joug est bon et ma charge légère. La semaine dernière, j'avais prévu de lever un peu le pied en profitant de l'accalmie des vacances, mais dès le dimanche soir, j'ai compris que ça n'allait pas suffire, parce que le dimanche soir, j'ai reçu un mail comme j'en reçois plein, hein, rien de particulier, si ce n'est qu'il nécessitait une réponse assez rapide. Et du coup, je me suis dit, mais si je ne coupe pas le robinet des mails, je vais évidemment continuer d'en recevoir et je vais les garder en tête toute la semaine parce que je sais qu'en face, il y a quelqu'un qui attend une réponse. Et ça s'appelle la charge mentale. La charge mentale. Les mamans savent de quoi je parle, les papas aussi parfois quand même. Il y a la charge mentale qui est liée aux affaires de la famille, et puis il y a aussi celle qui est liée à l'activité professionnelle, ou encore celle qui est liée aux divers engagements bénévoles qu'on peut avoir. C'est toutes ces choses qu'on a à penser, sur lesquelles il faut anticiper, etc., etc. Alors pour arrêter quelques jours cette charge mentale qui pesait franchement, j'ai mis un message d'absence en réponse automatique sur mes mails, et j'ai prévenu les trois conseils de l'Église, le conseil pastoral et le conseil de la Bège, pour qu'ils ne soient pas surpris du retour. Et ce fut là le début de l'aventure du repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, dit Jésus. C'est quand même une curieuse proposition de la part de celui qui nous promet le repos. Ça m'évoque d'emblée Marthe et Marie. Marthe qui s'affaire en tous sens pour que la maison soit propre, pour que le service soit bien fait, et qui se plaint de Marie qui ne l'aide pas. Et Marie, elle, pendant ce temps, eh bien, elle est aux pieds de Jésus et elle se laisse instruire par lui. Et Jésus, loin de prendre la défense de Marthe, lui dit en fait, Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas ôtée. Alors, est-ce qu'il faut entendre par là qu'il ne faut plus rien faire et puis s'asseoir simplement au pied de Jésus toute la journée? Probablement pas. D'ailleurs, quand bien même elle aurait voulu faire ça, ça n'aurait pas été possible parce que Jésus ne passait pas sa journée à enseigner, il faisait d'autres choses aussi. Mais quand le temps était venu, alors certainement, il fallait aller à ses pieds, tout à fait cessante. C'était là la meilleure part. C'est quelque chose que j'ai déjà dit parce que c'est une évidence, en tout cas c'est une évidence sur le papier. Il ne s'agit pas de prendre le joug du Christ en plus du nôtre, mais à la place du nôtre. Et on a beau le savoir, c'est quand même là qu'on se fait avoir, je crois, en tout cas c'est là que je me fais avoir et j'ose imaginer qu'il y en a parmi vous qui sont dans le même cas que moi. Parce que alors qu'on est déjà épuisé, déjà surchargé, on prend le fait de venir à Jésus comme une tâche de plus à ajouter à un agenda déjà rempli. On se lève plus tôt pour passer du temps dans la prière et dans la lecture de la Bible, et c'est très bien, sauf qu'on ne se couche pas plus tôt. Ou alors on vient saturer le seul espace qu'on avait pour se détendre. Bref, on cale au chausse-pied un rendez-vous avec le Seigneur pour trouver auprès de lui le repos dont nous avons besoin. Et on s'étonne de ne pas avoir trouvé auprès de lui ce repos ensuite. Donc je le répète, il ne s'agit pas de prendre le joug du Christ en plus du nôtre, mais à la place du nôtre. Ce qui a une conséquence du coup très concrète, très pragmatique, c'est que il va falloir faire de la place. Jésus ne suggère pas que Marthe et Marie auraient dû s'occuper des tâches matérielles en se levant plus tôt, ou en travaillant plus vite, ou en se couchant plus tard. Je crois qu'il dit que Marie a choisi la bonne part parce qu'au moment opportun, elle a su laisser de côté l'accessoire au profit de l'essentiel. Mes deux premiers jours de repos, je les ai passés complètement amorphes. j'avais plus d'énergie, j'avais même plus d'envie. Tout ce que je le faisais au ralenti. Alors évidemment, j'ai fait beaucoup moins de choses, mais petit à petit, je me suis rendu compte aussi que je commençais à savourer le peu que je faisais. Et ça m'a rappelé mon périple à pied vers Saint-Jacques-de-Compostelle, 2 mois, où j'avais pour toute préoccupation mes 2 pieds, le repas suivant et le lieu où dormir le soir. Et tout le reste, c'était de la disponibilité pour le Seigneur et pour tout ce qui l'amènerait de rencontres et d'aventures au cours de la journée. 2 mois pour aller à Compostelle, alors qu'en avion, vous y êtes en 2 heures. On pourrait penser, du coup, que prendre l'avion, c'est un gain de temps. 2 heures au lieu de 2 mois, on gagne du temps. En fait, on ne gagne pas une seule seconde de vie en prenant l'avion. Durant 2 mois, je n'ai pas moins vécu que si j'avais pris l'avion et que j'avais passé 2 mois à Compostelle. Je n'ai pas moins vécu, j'ai vécu autre chose. J'ai marché, en fait, au rythme de l'humanité, parce que c'est ça, la marche. C'est comme ça qu'on est censé avancer, à pied. J'ai vu les paysages se transformer un pas après l'autre. J'ai vu comment la nature passe de la montagne à la plaine et de la plaine à la montagne, tout doucement. Quand on ralentit le rythme, on ne vit pas moins. En fait, il est même assez probable qu'on vive plus longtemps à terme. Alors, dans ma semaine de repos, une fois l'énergie revenue, j'ai poursuivi volontairement à pas lents. Toute la semaine, j'ai mangé lentement, j'ai marché lentement. Vous voyez, là, je prêche lentement aussi, on n'est pas pressé. J'ai pris le temps de regarder autour de moi. J'ai pris le temps de m'arrêter quand j'étais saisi par la beauté d'une devanture, d'un bâtiment, d'une terrasse. Je me suis assis dans la cathédrale de Chambéry. J'ai fait mon délice de son silence feutré, de sa pénombre. Et puis ensuite, je remontais chez moi en flânant, le nez au vent. Je glissais ma main dans le romarin qui longe la route, là, juste au-dessus de notre appartement, et je m'enivrais de son odeur. Et tout ce temps-là, le téléphone est resté dans ma poche. Parce que j'ai arrêté aussi de ressentir cette nécessité d'optimiser chaque seconde, chaque temps creux. J'ai arrêté de ressentir la nécessité de ne laisser aucun répit à mon cerveau déjà fatigué. Et ce qui, soit dit en passant, m'a fait gagner un temps fou. Mais surtout, j'ai réalisé une chose. Au cours du XXe siècle, et encore aujourd'hui, les progrès technologiques nous ont permis d'accomplir notre ouvrage en beaucoup moins de temps. On ne fait plus la lessive à la main, les ordinateurs nous permettent de faire en quelques minutes ce qui aurait demandé des heures, voire des jours à nos ancêtres, les réseaux sociaux ont réduit les distances, et c'est génial en fait, c'est magnifique, parce que ça veut dire qu'on peut produire autant en beaucoup moins de temps. Alors ça c'est super. Sauf que ce n'est pas ce qu'on a choisi dans le monde occidental. Nous, on a choisi de produire beaucoup plus dans le même temps, dans une espèce de course effrénée, une espèce de fuite en avant, dont le but, c'est l'enrichissement, devenir toujours plus riche, toujours plus prospère. Et on est pris dans une espèce de lessiveuse. On n'a quasiment pas le choix, parce que, par exemple, si vous êtes artisan et que vous n'augmentez pas votre productivité grâce aux nouvelles technologies, votre voisin, lui, il va le faire pour baisser ses coûts, pour être concurrentiel. Et donc vous, vous ne tiendrez pas la distance et vous allez couler. Et c'est comme ça que le temps gagné via la technologie n'a pas été gagné pour Dieu, mais il a été gagné pour Mammon, le démon de l'argent. Celui-là même que Jésus met en vis-à-vis de Dieu pour nous dire qu'on ne peut pas servir l'un et l'autre. Notre société, la société qui nous entoure, a choisi sa divinité et clairement, ça n'est pas le Dieu de la Bible. Mais nous sommes chrétiens. Et dans ce monde profondément idolâtre dans lequel nous vivons, le repos, le sabbat, c'est devenu un acte absolument subversif, un acte à contre-courant, un marqueur de notre foi, un acte profondément spirituel. Et donc un acte qui a un coût élevé. Il a un coût élevé parce que Mammon est une idole puissante dans notre monde. Ralentir dans un monde qui exige qu'on aille toujours plus vite, c'est en fait s'attirer de nombreux problèmes. En milieu professionnel, c'est poser des limites claires sur son temps de travail, c'est refuser les heures supplémentaires, c'est ne pas accepter ce dossier en plus à prendre en charge alors qu'on n'a pas plus de temps pour le faire. C'est refuser de sacrifier un jour de congé pour assister à je ne sais quel séminaire, et ça c'est moi qui vous le dis, alors que je pars à la pastorale nationale pendant 3 jours, dont mon jour de repos. On a tous nos défis et nos paradoxes. Bref, c'est refuser de faire tout un tas de choses qui sont valorisées dans le monde du travail. Parce que c'est valorisant dans le monde du travail de ne pas compter ses heures. On vous félicitera pour ça. On vous dira que vous aimez votre travail et que ça se voit. Jamais personne ne vous dira, parce que vous avez refusé un week-end de garde, que vous aimez votre famille et que ça se voit. Bon, sauf votre famille, évidemment. Mais au boulot, personne ne valorisera ça. Et malheureusement, il n'y a pas qu'au travail que ces choses-là arrivent. Et ça aussi, ça me frappe quand on parle de la pénétration du monde dans l'Église, cette expression qu'on entend souvent. On parle volontiers de la question des mœurs. On fait une espèce de fixette sur cette question dont Jésus n'a pourtant parlé qu'assez modérément. Paul a été un peu plus bavard sur le sujet. Mais on ne parle pas de ce qui est, à mon avis, beaucoup plus évident. Et à nouveau, il s'agit de Mammon, l'idole de l'argent. Et je ne parle pas ici que de la théologie de la prospérité, qui en est l'exemple le plus criant, mais aussi de ce culte de la performance qui est dans le même mouvement, en fait, et qui nous réduit à nouveau en esclavage, comme en Égypte, à devoir fabriquer toujours plus de briques, quand bien même on dit qu'on les fabrique pour le Seigneur. Cette idole, elle exige notre temps, notre dévotion, notre énergie. Elle nous inspire de travailler plus pour gagner plus, petit clin d'œil, quand bien même il s'agirait de gagner plus d'âmes, parce qu'on spiritualise tout. Là où le Seigneur, lui, nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Là où le Seigneur dit à Marthe « Mais Marie a choisi la meilleure part ». Nous avons sans doute, nous, en tant qu'Église évangélique, un travail d'introspection à faire. Nous sommes le peuple de la parole, tant et si bien qu'on est souvent incapable de tolérer le moindre silence, le moindre temps creux, la moindre oisiveté consacrée. Voilà comment je l'appellerai, l'oisiveté consacrée. Nous sommes le peuple zélé pour l'évangile, missionnaire, mais tout à notre fougue de descendre de la barque pour marcher sur l'eau comme l'apôtre Pierre, nous oublions que c'est seulement sur l'ordre du Seigneur qu'il a pu faire ça. Et du coup, on boit la tasse, parce que nous allons là où le Seigneur ne nous a pas appelés. Alors tout ça c'est très bien, mais comment est-ce qu'on peut rectifier le tir? Dans ma semaine de repos, le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur. À vrai dire, je ne savais pas que c'était lui, je l'ai compris que plus tard, et c'est également a posteriori que j'ai fait le lien avec la question du repos. Dans un coin de ma chambre, de notre chambre pour le coup, il y avait un lieu que je n'aimais pas. Une bibliothèque avec tout un tas de livres entassés en bazar, du matériel disparate, des objets électroniques, mes affaires de moto, des papiers. Devant ce meuble, il y avait aussi une espèce d'horrible commode en plastique semi-transparent posée là parce que fallait bien la mettre quelque part. Et c'était un lieu froid, un lieu impersonnel, désagréable, où nous passons pourtant beaucoup de temps parce que c'est aussi là que nous avons notre petit bureau de travail, Anna et moi. Alors j'ai voulu en faire un coin cosy, un coin sympa, agréable. J'ai viré le meuble en plastique, j'ai vidé la bibliothèque, j'ai réparé le fond de cette bibliothèque qui était cassée, j'ai remis dedans à peine le tiers des livres qui s'y trouvaient initialement pour laisser l'espace bien aéré, j'y ai ajouté de la déco, une plante, une guirlande lumineuse, 2 bougies, devant j'ai mis un tapis, un petit fauteuil et son plaid, et une chose après l'autre, cet horrible coin est devenu l'un des lieux les plus agréables de tout l'appartement. En tout cas, ça, c'est mon avis. Juste après les toilettes que j'ai refait l'année dernière dans la même idée. Je m'y suis installé dans ce lieu. Et comme l'endroit s'y prêtait bien, j'ai commencé à y lire ma Bible tous les matins, lentement, à voix haute, à y prier, tranquillement, et à écrire aussi dans un petit journal les premières pensées qui me venaient de la journée précédente. Eh bien, au miracle, j'ai trouvé là du repos. Et c'est là que j'ai compris que Je devais faire dans ma vie ce que j'avais fait dans ce petit coin horrible de ma chambre. Pour venir à Jésus et prendre son joug, qui est doux et léger, il faut d'abord faire de l'espace. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Il faut faire du rangement. Il faut jeter le superflu. Il faut s'aménager un coin cosy dans l'emploi du temps de notre vie. Et pour ça, il faut désencombrer. Et puis, il faut embellir aussi, drastiquement, radicalement. Et l'exercice est une vraie lutte. J'ai dit au tout début que le repos, c'est une terre à conquérir. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais je le dis maintenant. Le repos est une terre à conquérir. C'est comme ça qu'il nous est présenté dans l'Épître aux Hébreux, une conquête territoriale. L'auteur, en Hébreux 3 et 4, fait un parallèle entre le repos en Christ et l'entrée du peuple dans le territoire de Canaan. Et il met en garde en disant « Tous ne sont pas entrés dans le repos. » Il y en a qui ont erré 40 ans dans le désert. Alors qu'ils venaient de sortir de l'esclavage en Égypte, le lieu par excellence du travail ininterrompu, deux générations d'Israélites sont mortes dans le désert et ne sont pas entrées dans le repos de Dieu. Et Hébreux 3, 12 à 19, nous avertit en disant, je crois que je l'ai, oui, c'est peut-être écrit petit, de toute façon je vais le lire. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais qui manque de foi et s'éloigne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous mutuellement chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, pour qu'aucun de vous ne s'obstine à cause de l'attrait trompeur du péché. Car nous avons part au Christ si du moins nous restons fermement attachés jusqu'à la fin à la réalité du commencement, pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous obstinez pas comme lors de la révolte. » Qui en effet provoqua l'amertume après avoir entendu ? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse ? Et contre qui fut-il indigné 40 ans durant ? N'est-ce pas contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert ? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos ? N'est-ce pas à ceux qui avaient refusé d'obéir ? Nous voyons bien qu'ils ne purent entrer à cause de leur manque de foi. Et j'attire votre attention sur la racine du problème qu'on trouve au verset 12, « Que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais qui manque de foi et s'éloigne du Dieu vivant. » Celui qui s'éloigne de Dieu n'entre pas dans son repos. Et qui s'éloigne de Dieu ? Qui est celui qui manque de foi, si ce n'est celui qui ne fait pas d'espace au Seigneur, celui dont la vie est tellement pleine que Dieu n'y a plus sa place parce qu'il a été détrôné par les idoles de nos vies. Hébreux 4, versets 9 à 11 dit « Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu, car celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres comme Dieu des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là pour que personne ne tombe de la même manière en refusant d'obéir. » C'est sûr que quand on est dans un activisme effréné, on n'a pas le temps d'écouter la voix du Seigneur. Il n'y a pas la place pour ça. Il y a trop de bruit dans notre tête, on n'a pas le temps et on n'entend pas. Et si on n'entend pas, on ne peut pas obéir. Dans ce repos-là, nous entendons la voix de Dieu. Jusqu'ici, je suivais un plan de lecture de toute la Bible en 3 ans, mais j'ai changé un petit peu mon plan. J'ai décidé d'y ajouter, avant même de toucher à mon plan de lecture, un chapitre des Évangiles, chaque jour. Parce que j'ai ressenti vraiment le besoin d'entendre la voix de Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur. J'aspire, comme Marie, à entendre ses enseignements, à choisir la meilleure place dès le matin, dont je sais qu'elle ne me sera pas ôtée, sauf à me l'ôter moi-même. Mais je sais que ce repos, si je ne le prends pas de gré, me sera un jour imposé de force. Alors, Jésus n'a pas menti. Quand il dit « Venez à moi et je vous donnerai du repos », il dit vrai. Mais ce repos-là ne vient pas en plus de tout le reste. Il vient à la place de tout le reste. Le problème, ce n'est pas la promesse. Le problème, c'est la place que nous laissons ou que nous ne laissons pas à la promesse. Nous disons « Seigneur, parle » et nos journées sont saturées de bruit. Nous disons « Seigneur, viens » et il n'y a pas de chaise pour lui. Nous disons « Seigneur, je veux ton joug doux et léger » et nous portons déjà 3 sacs sur le dos. Fais de la place. C'est un acte de foi que de faire de la place. Ralentir, faire du vide dans l'agenda, c'est dire à maman, au travail, au mail, au réseau, tu ne règnes pas sur moi. J'ai un autre maître que toi. Le repos n'est pas une paresse, le repos est une conquête contre le monde qui accélère, contre nos idoles et parfois contre nous-mêmes et notre volonté pécheresse. Mais la bonne nouvelle, la voici, c'est que quand on fait de la place, Jésus vient. Jésus vient. Dans le creux d'une cathédrale silencieuse, dans le rythme lent de la marche à pied, dans le confort douillet d'un fauteuil et son plaid, Jésus vient. Alors, je vais vous proposer 3 gestes simples pour cette semaine, si vous manquez d'idées pour la semaine. D'abord, ralentis. Prends le temps. Prends le vrai temps qu'il faut pour faire les choses. Pas celui que tu as super accéléré parce que tu sais que la journée est trop pleine, mais le temps qu'il faut pour faire les choses. Prévois toujours large et ne dépasse jamais le timing que tu avais décidé à l'avance. Ça va t'obliger à la deuxième chose, ça va t'obliger à désencombrer ton agenda. En fait, si tu joues le jeu du ralentissement, tu ne vas pas avoir le choix, tu vas être obligé de désencombrer, de faire moins de choses. Mais ce que tu le feras mieux et avec plus de plaisir. Et enfin, c'est une suggestion, parce qu'elle m'a bien réussi, et aussi parce qu'elle est assez méditative, désencombre un lieu. Faisant un exercice spirituel, choisis un coin de ton habitation, de ta maison, de ton appartement, et fais-en un lieu de rencontre avec ton Dieu. Un lieu à ton goût, un lieu qui te donne envie d'y passer du temps, de t'y asseoir et de passer du temps là. Et tu verras, je crois, que ce que Jésus dit est vrai. Mon joug est doux et ma charge légère. Finalement, si notre charge est lourde, c'est probablement parce que ça n'est pas celle de Jésus. Sa charge est légère et elle est légère parce qu'il la porte avec nous. Je vais prier. Seigneur, je sais que cet appel au repos est un appel profondément subversif et qu'il y en a sans doute parmi nous qui s'agitent sur leur chaise en disant « Ouais, mais lui, il ne connaît pas ma vie. Je ne peux pas, je n'ai pas la place, ce n'est pas possible. J'ai trop de choses, trop de responsabilités. C'est le bazar dans ma famille, c'est le bazar dans mon boulot. Je ne peux pas ralentir. Seigneur, je te prie pour ces personnes-là en particulier, dont la vie est trop chargée et qui, pour l'instant, ne voient même pas comment respirer, pour qui la journée démarre sur les chapeaux de roue dès le matin et ne s'arrête pas jusqu'au soir, qui n'ont pas de temps pour eux-mêmes, pour simplement passer du temps dans ta présence sans avoir en même temps les 1000 choses à faire qu'ils ont en tête et qui viennent juste après. Cette fameuse charge mentale qui vient pourrir aussi les temps qu'on passe avec toi. Seigneur, je te prie en particulier pour ces personnes-là. Je te prie pour qu'elles osent faire ce pas du ralentissement. Qu'elles osent ne pas faire tout ce qu'elles ont à faire, qu'elles osent accepter finalement les limites qui sont les nôtres, les limites que tu as fixées dans nos vies, des limites qui consistent en une journée de 24 heures et pas de 35, en une nécessité de repos physique de 8 heures, en une nécessité aussi simplement de repos psychique, et spirituel, où nous pouvons simplement passer du temps avec toi, pas pour accomplir un exercice spirituel, une case à cocher dans notre plan de lecture de la Bible ou je ne sais quoi, mais simplement pour être dans ton repos. dans ta présence. Je te prie de leur permettre de trouver cet espace et je te prie surtout de leur permettre de le créer. C'est une question de foi, c'est une question d'audace aussi, comme tout ce qui est une question de foi. Il y a un moment où on fait un pas dans le vide, où ça fait peur, mais on veut avancer en confiance, puisque c'est toi qui en as fait un commandement, Seigneur. On veut croire aussi que tu vas être fidèle dans les choses nécessaires que nous avons à faire, celles auxquelles nous ne pouvons pas échapper, celles qu'il faut vraiment accomplir. Nous voulons croire qu'il y aura la place, parce que tu ne nous demandes pas de faire des choses au-delà de nos forces, de nos capacités. Tu ne remplis pas l'agenda, toi, au-delà de ce qu'on peut faire chaque jour. Alors, voilà, simplement, Seigneur, donne-nous cette audace, donne-nous l'audace de ne rien faire, l'audace de nous arrêter. Seigneur, tu as fait du repos un commandement. C'est incroyable quand on y pense, qu'on soit tellement têtu qu'il faille nous dire « maintenant, tu t'arrêtes et tu prends des vacances ». Seigneur, nous voulons obéir à ce commandement-là parce que dans ce repos-là se trouve tout le reste, se trouve l'espace de ta volonté, se trouve ce que toi tu nous demandes et rien d'autre. C'est au nom de Jésus que je te le demande. Amen. Je vais inviter l'équipe de louanges.